Věřme dál v socialismus a demokracii.
Vážení přátelé,
uvažujeme i gosti. 27.
sjezd KPSS. Sous la conduite du général Walker et du général Dean, héros des combats de Téhéran.
Placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba. Yes or no?
La fabrique de la guerre froide. Le 6 octobre 1973, l'Égypte et la Syrie attaquent les territoires occupés par Israël depuis 1967. Les États-Unis et l'Union soviétique, qui ont pourtant renoué un dialogue diplomatique de détente dans leur lutte d'influence sur le monde, prennent parti.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Selon Tel Aviv, Israël a repris l'initiative sur les deux fronts depuis l'aube, après avoir acheminé des renforts considérables partout. Contre-offensive de blindés israéliens dans le Sinaï, soutenue par l'aviation dans le but d'anéantir les forces égyptiennes qui avaient traversé le canal de Suez. Sur le front nord, 400 chars syriens auraient été détruits. Pour la première fois, Israël publie un bilan et indique avoir abattu 90 avions et hélicoptères arabes. Mais les Égyptiens annoncent de leur côté que leurs forces progressent dans le Sinaï et les Syriens démentent la destruction de leurs chars et en tout cas, l'aviation égyptienne paraît très active. Maintes interrogations demeurent. Par exemple, pourquoi les Israéliens ont-ils été surpris par l'offensive arabe? Et surtout, sans doute, dans le débat au Conseil de sécurité qui ne saurait plus tarder maintenant, jusqu'à quel point Washington et Moscou montreront-ils leur détermination de faire en sorte que les choses n'aillent pas trop loin?
Léon Zitrone pose une bonne question, puisque la guerre du Kippour est l'une des guerres du Moyen-Orient les plus internationalisées qui soient.
Nicolas Badalassi.
Et elle est effectivement un enjeu de guerre froide, puisqu'on est à une époque où les deux grands sont très présents au Moyen-Orient et cherchent à renforcer leur présence. Alors, les États-Unis, sur ce point, vont mieux réussir que l'Union soviétique, puisqu'il faut savoir que donc ce début des années 70 au Moyen-Orient, c'est un tournant, parce que la grande figure de la région et du nationalisme arabe, Nasser, est mort en 1970, et son successeur, Anwar el-Sadat, lui, va multiplier les ouvertures vers Washington et il va rompre avec le socialisme arabisant de son prédécesseur et mener son pays vers le libéralisme économique. Donc, Sadat, à partir de 1970, il va tenter de réduire l'influence soviétique en Égypte. Le but de Sadat, avec la guerre du Kippour et la guerre d'octobre pour les pays arabes, le but de Sadat est d'amener son pays à la table des négociations dans une relative position de force. C'est une guerre qui est immédiatement internationalisée, du fait évidemment de la proximité très forte entre Israël et les États-Unis, mais aussi de la volonté soviétique de maintenir l'influence de Moscou dans les pays arabes. Et on sait aujourd'hui que dans les mois qui ont précédé le déclenchement de la guerre du Kippour en 73, en octobre, eh bien, les Soviétiques ont livré des quantités d'armes considérables aux Égyptiens. Et on le voit pendant le conflit, Léonid Brechnev se place résolument du côté arabe. Et même à partir du 10 octobre, Moscou établit un pont aérien pour ravitailler en armes l'Égypte, l'Irak et la Syrie, donc les pays belligérants. Le règlement de ce conflit va être avant tout une affaire soviéto-américaine. C'est précisément ce que Sadat voulait, que les Américains s'en mêlent. Alors, les Israéliens, eux, de leur côté, donc, justement, s'attendent à ce que les Américains les aident. Une fois leur mobilisation achevée, la contre-offensive israélienne est fulgurante. C'est un revers militaire pour l'Égypte, qui, du coup, incite l'URSS à soutenir davantage ses alliés arabes, mais surtout à se concerter avec les États-Unis. Les États-Unis, eux, de leur côté, ont mis en place un pont aérien vers Israël. Et donc, par l'intermédiaire du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est ce que disait le reportage, eh bien, Américains et Soviétiques mettent en place un cessez-le-feu. Ce sera la résolution 338 du 22 octobre qui demande aux belligérants de mettre fin au combat. Sauf que Israël, qui a pris l'avantage dans le Sinaï, entend poursuivre ses opérations dans la région et notamment le fait d'encercler la 3e armée égyptienne qui se trouve sur place. Donc les Israéliens ne respectent pas le cessez-le-feu. Et là, les Soviétiques menacent d'intervenir directement. Ce qui poussent les États-Unis à répliquer. Ils vont d'ailleurs mettre leurs forces armées en alerte, y compris leurs forces nucléaires. Donc là, on est vraiment dans un conflit qui est un conflit de guerre froide, tout à coup, puisque ce sont vraiment les États-Unis et l'Union soviétique qui mènent la danse. Alors, cet affrontement entre les deux géants va précipiter l'arrêt définitif des combats. Et donc, on constate que c'est un conflit qui a été d'abord le fait des deux superpuissances, très internationalisé, hein, même si les objectifs de Moscou et de Washington à l'époque ne sont toujours pas très clairs. Que voulaient-ils ? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une période de détente. Un moment où Moscou et Washington se multiplient les négociations. Il y a eu les accords SALT sur la limitation des armes stratégiques. On est en pleine négociation sur la réduction mutuelle équilibrée des forces en Europe. Il y a le processus d'Helsinki qui commence. 73, c'est aussi la signature de l'accord Nixon-Brejnev sur la prévention de la guerre nucléaire. Donc, ils sont en négociation permanente. Hein. Mais là, au Moyen-Orient, leurs alliés font la guerre. Donc, on pense que c'était le match nul qui était visé par les Soviétiques comme par les Américains. Personne ne voulait un bouleversement total du Moyen-Orient. Donc cette partie nulle, elle équivaut à cet état ambigu des relations entre les deux grands. Et puis surtout, l'Égypte, dans le cadre de ces négociations, va rétablir ses relations diplomatiques avec les États-Unis, ce sera en 1974, et rompre le traité d'alliance avec l'Union soviétique, qui n'a plus d'influence sur les pays arabes modérés. Et notamment l'Égypte, hein, qu'elle a perdue. Sachant que l'Union soviétique a rompu avec Israël depuis 67, depuis la guerre des six jours. Hein. Donc, les Soviétiques se coupent totalement du processus de paix, notamment entre l'Égypte et Israël, hein, qui aboutira à Camp David. Et dans ces années-là, la Méditerranée se transforme peu à peu en lac américain. Jusqu'à ce que l'islamisme fasse son entrée sur la scène moyen-orientale en 79. Enfin, il est déjà là, mais en tout cas que l'omniprésence américaine soit contestée par les islamistes, notamment iraniens, à partir de 79.